C'est une année de reprise pour le Festival OFF d'Avignon. Cette 56e édition retrouve les couleurs d'avant la pandémie, autant par le nombre de spectacles présents comparables à 2019 que par la transformation que la Cité des Papes va vivre. Madame la maire dit vouloir tirer les leçons de la crise avec une attention toute particulière portée au développement durable. Un comité de pilotage a été mis en place avec les partenaires du festival pour initier des actions liées à l'éco-festival et ainsi inciter les bonnes pratiques en matière de réduction de déchets. Le compte à rebours est lancé, c'est parti pour 3 semaines de bonheur partagé avec 1570 spectacles, 1094 compagnies françaises et un soutien tout particulier au peuple ukrainien et à sa communauté artistique soulignée par Madame la maire. On écoute tout de suite au micro de Fréquence Mistral Avignon, Madame Cécile L., la maire d'Avignon, accompagnée de Laurent Domingos et Harold David, co-président d'AFC, Avignon Festival et compagnie.
C'est principalement évidemment Harold David et Laurent Domingos qui m'encadrent, qui vont animer cette conférence de presse. Mais c'est vrai qu'il était important pour moi en tant que maire d'Avignon de dire quelques mots en introduction. Bah, d'une part pour les saluer tous les deux dans leur fonction de co-président de l'association qui porte le Festival OFF d'Avignon. De leur souhaiter, évidemment, avec toute l'équipe qui les accompagne, parce que je crois qu'ils vont mettre en avant aussi cette équipe et ce travail collaboratif et cette synergie collective qu'ils ont initiée depuis qu'ils sont co-présidents du Festival OFF. Je vais leur souhaiter par avance une très belle édition 2022. Souligner que depuis plusieurs années, comme vous le savez, il y a un lien étroit qui a été construit entre le Festival OFF et la ville d'Avignon. Et je pense que l'importance en fait, de l'Assemblée d'aujourd'hui témoigne aussi de tout l'intérêt que portent notamment les médias locaux mais aussi nationaux au Festival d'Avignon et notamment au Festival OFF. Je voulais aussi, avant de démarrer cette conférence de presse, saluer la présence de Madame la députée Soit de Zitouni, qui a tenu aussi à être présent et qui marque aussi du coup l'importance que revêt effectivement à la fois le Festival OFF mais cette conférence de presse. Donc sur le partenariat avec la ville d'Avignon, vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, une école de la ville se transforme en village du OFF dès le démarrage de festival. Alors je dis une école parce qu'habituellement c'est l'école Simone Veil. Cette année, l'école Simone Veil est en travaux, notamment puisqu'elle fait partie des écoles qui sont concernées par le programme de végétalisation en fait, des cours de récréation. Et donc, pour le coup, elle n'était pas accessible sur cet été 2022, d'autant aussi que la ville va entreprendre des travaux sur la rue des écoles, qui mène aussi à cette école Simone Veil. Et donc, nous avions deux options qu'on nous avons soumises à l'équipe du Festival OFF, et c'est finalement l'école Boukri qui accueillera donc cette année le village du OFF, tout autant positionné au cœur du centre-ville, dans la partie ouest, alors que l'école Simone Veil est plutôt située dans la partie est. Donc, évidemment aussi qu'il y aura un accompagnement en matière de jalonnement, hein, comme on dit, ou de signalétique, pour évidemment que les festivaliers ne soient pas perdus vers cette et qu'ils puissent bien repérer cette nouvelle localisation du village du OFF. Je laisserai Harold et Laurent préciser que, comme habituellement, ça sera un lieu de vie qui portera tout au long des journées du 7 au 30 tout un tas d'événements du matin d'ailleurs jusqu'au soir, puisque c'est ainsi qu'a été conçu le village du OFF. Souligner aussi qu'il y a une reprise cette année auquel moi je suis particulièrement attachée, qui est la parade. Voilà, donc une parade qui devrait se tenir donc le 6 juillet, qui est aussi un élément très important d'animation en fait du centre-ville, mais aussi qui nous permet de tous rentrer en festival pour ce temps si particulier que constitue le mois de juillet pour toute Avignonnaise et tout Avignonnais. Et c'est vrai que cette parade, en même temps, elle est le moyen, je pense, de renouer avec le public. Voilà, en tout cas, je sais qu'elle est depuis toujours aussi bien identifiée. que c'est souvent dans la tête des festivaliers, dans la tête des habitants d'Avignon, le premier rendez-vous finalement du festival et de l'édition de chaque année. Et du coup, c'est vrai que pour des raisons évidemment de sécurité, y compris de sécurité sanitaire, cette parade n'avait pas pu se tenir depuis 2 ans. Et là, donc, du coup, on renoue avec cette tradition et je remercie parce que c'est toujours aussi une grosse organisation que cette parade du Off. Donc là aussi, elle aura un parcours qui est un peu réinventé et réinterprété pour aboutir évidemment au village du Off. Et grosso modo, elle sera un lien finalement entre la localisation, on va dire, historique, côté plutôt Rutière, et puis la localisation avec l'école de la Boucrie qui est située donc plutôt à proximité de la rue de la République. Et puis le dernier élément que je voulais souligner, ben c'est la belle affiche en fait qui nous est proposée cette année, puisque là aussi elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat et je salue le directeur de l'école supérieure d'art d'Avignon qui est présente. Et notamment parce que cette affiche, elle a été proposée en fait par 3 étudiantes qui suivent un cursus en fait au sein de notre école d'art. Et là aussi, vous savez combien je suis attachée aux passerelles et à ce que des passerelles se tissent en fait entre des acteurs culturels incontournables de notre ville. L'école d'art en est un, le festival Off aussi. Et donc, je me réjouis, voilà. Et je veux dire que je suis en plus assez séduite, voilà, par la proposition. Enfin, je trouve que c'est une proposition avec plein de couleurs. C'est une affiche aussi qui fera date. Vous verrez qu'à nouveau aussi beaucoup de spectacles, beaucoup de compagnies, une dimension à la fois d'ouverture sur le monde, avec des compagnies et des spectacles nationaux, européens et internationaux. Moi, je voulais juste aussi souligner la démarche éco-responsable dans laquelle est le Festival Off depuis plusieurs années, sur lequel elle est accompagnée là encore par à la fois la ville d'Avignon, mais aussi le Grand Avignon. On a la volonté, puisque la ville va y compris adopter à la fin du mois son plan local pour le climat, d'aller encore plus loin sur l'émergence d'événements à dimension culturelle et sportive vraiment éco-responsables. Je dois dire que le festival nous montre l'exemple, puisque depuis plusieurs années, il y a cette démarche d'éco-festival. Et je sais que l'équipe du Off autour de Harold et Laurent ont envie, comme nous, de passer des caps, voilà, pour aller encore plus loin vers cette exemplarité de l'événement culturel que constitue le festival. Et puis, juste avant de leur passer la parole, je voudrais redire que pour moi, qui suis une Avignonnaise qui aime le festival depuis toujours, le festival ne fait qu'un. Voilà, et je suis aussi très attachée à ce que nous apporte le Festival Off, voilà, par la diversité et la richesse des créations artistiques et culturelles qui sont données à voir, bien sûr aux festivaliers, mais je le dis aussi aux Avignonnaises et aux Avignonnais. Vous savez qu'Avignon se revendique terre de culture avec ce beau projet que nous avons pour 2025. Mais voilà, depuis toujours, je considère que ce mois de juillet, qui est un temps exceptionnel dans la vie de notre ville, c'est aussi un temps exceptionnel pour nous tous en tant qu'habitantes de cette ville, parce que c'est la possibilité d'être en proximité avec ce foisonnement créatif et culturel. Et ça, seul le festival, et notamment le Festival Off, peut nous le donner. Et donc moi, j'avais terminé un remerciement, voilà, adressé à l'ensemble des compagnies qui, cette année encore, vont jouer le jeu de faire rayonner le Festival Off et bien au-delà des seules frontières d'Avignon.
Voilà. Merci.
Je vous remercie en tout cas.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. C'est un événement effectivement important pour le festival. Merci Madame la maire de nous accueillir ici et merci à Madame la députée de faire l'honneur de votre présence. Effectivement, le Festival Off d'Avignon, bon, vous le savez tous ici, c'est un des plus grandes fêtes du spectacle vivant en Europe. Il y a 33 000 levées de rideaux pendant le festival. Et c'est un festival qui a la particularité d'allier indépendance et intelligence collective, c'est-à-dire que c'est les compagnies, les théâtres, les artistes, les techniciens qui font le Festival Off. Le AFC, qui est Avignon Festival et Compagnie, c'est notre association, une immense tâche d'accompagner tous ces acteurs du festival pour travailler avec eux sur la création artistique et la diffusion pendant le temps du festival et pendant toute l'année. Donc nous sommes des accompagnants Nous sommes des gens qui apportons des services et qui facilitons, qui essayons en tout cas d'apporter tout un tas de facilitations pour l'ensemble des acteurs du festival, qui eux font ce festival off qui nous tient tous et toutes tant à cœur. On va se passer la parole avec Harold de façon un peu informelle, simplement pour vous préciser aussi que, en dehors de cette grande fête, qui est aussi pour le public, pour le territoire, sur lequel nous comptons aussi travailler, c'est aussi un moment extrêmement important pour la plupart des compagnies françaises. Il faut savoir que pour la plupart des compagnies en France, ce moment-là est un moment indispensable dans leur parcours artistique pour diffuser leur spectacle et pour essayer leur création. Donc c'est un moment qui est à prendre à son importance en France. Nous pensons que les sociétés civiles et les pouvoirs publics le prennent à sa juste importance. On remercie la ville d'Avignon évidemment d'être notre partenaire, notamment dans le collège C, mais il y a aussi la préfecture qui est avec nous, il y a le conseil départemental, la communauté d'amélioration avec laquelle on tisse des liens, la DRAC, la région Sud, et jusqu'au ministère de la Culture, et on les remercie parce que le Festival OFF a aussi besoin des pouvoirs publics et des sociétés civiles. Avant de donner la parole à Harold, un petit mot quand même sur le fait que Avignon, c'est, comme je vous ai dit, la plus grande fête du spectacle vivant. On va vous détailler ici les différents dispositifs que AFSC met en œuvre pour accompagner ce festival. On vous conseille de évidemment plonger dans le programme et de manger le plus possible de spectacles vivants parce qu'on en a besoin. L'édition 2022, vous le savez, est une édition très particulière. On est enfin sorti, enfin, il ne faut jamais le dire, je crois ça. On croit pouvoir être enfin sorti de cette période absolument, on va dire, avec beaucoup de challenges que le spectacle a subi, mais on a survécu. Donc cette année 2022, on espère, sera un moment extrêmement important, à la fois pour les compagnies d'artistes, mais aussi pour le public et les professionnels. Je laisse la parole à Harold.
Je veux dire juste deux mots pour compléter ce que tu viens de dire sur ce temps un peu informel d'ouverture de cette conférence de presse. C'est que le Festival OFF d'Avignon, c'est sa 56e édition, et donc ça s'inscrit dans une histoire qui date de sa création par André Benedetto. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est tributaire et héritier de cette histoire, dont on a conscience et dont on porte aussi la responsabilité avec l'ensemble des membres du conseil d'administration que je vais vous présenter, puisqu'ils vont intervenir dans la conférence de presse à différents moments. Donc Ophélia Maréchal, qui fait partie du conseil d'administration, Laurent Rochu, qui est vice-président en charge des théâtres. Il y a notre trésorier avec Jérémy Bourges qui est ici. Je crois qu'il y a Salvatore Cataviano quelque part qui est là-bas. Véronique Boutonnet qui est également membre du conseil d'administration. Voilà, il y a bien entendu toute l'équipe des 19 administrateurs qui sont à nos côtés et avec qui on travaille en collégialité afin de faire avancer le projet du festival. Laurent a insisté sur la dimension ô combien importante pour le festival d'être un rendez-vous professionnel d'une part, mais aussi pour le public. Cela se traduit par une réalité chiffrée, cette importance au niveau national et international du Festival OFF d'Avignon. Et donc on va vous présenter, si vous le voulez bien, les chiffres clés de l'édition 2022 qui donne une idée justement de cette importance et de combien le Festival OFF a son rôle à jouer dans la filière du spectacle vivant de notre pays. Alors, quelques chiffres clés pour savoir qu'il y a 138 lieux qui participent au festival. C'est le même nombre que celui qui était en 2019, dont 124 théâtres. Pourquoi une distinction entre théâtre et lieu? C'est qu'il y a des événements qui constituent les lieux de diffusion, notamment des festivals à l'intérieur du festival, qui sont donc comptabilisés dans les lieux. Mais 124 théâtres, ce sont 124 structures en dur, accueillant du public et des artistes, que celles-ci soient temporaires, ces structures, ou bien permanentes, puisque beaucoup de lieux sont installés dans des murs avignonnais. En tout, ce sont 1570 spectacles. Il y en avait 1592, si je ne m'abuse, en 2019. Donc on est revenu en 2022 au nombre de spectacles tels que c'était avant la crise, ce qui est plutôt un signe encourageant sur le fait que la vitalité de la création est au rendez-vous de cette reprise. Il y a plusieurs raisons aussi qui expliquent ce chiffre. C'est que d'une part, il y a quand même beaucoup de reports encore de 2020 et 2021 qui se sont retrouvés dans l'édition 2022. Et puis, il ne faut pas oublier que l'État, le ministère de la Culture, a encouragé à ce que les artistes, pendant les confinements, créent, investissent les lieux de théâtre pour pouvoir être en résidence. Et donc forcément, il y a des nouveaux spectacles qui ont vu le jour pendant cette période où les spectateurs ne pouvaient pas aller en salle, mais où les artistes créaient dans les salles. 108 événements, ce sont toutes les propositions connexes qui sont portées par les compagnies, principalement, un peu aussi par les théâtres, mais essentiellement par les compagnies qui accompagnent les programmations du festival. Ça peut être des lectures, des expositions, des showcases, des temps de rencontre avec le public. Bref, ce sont vraiment toutes les initiatives qui sont portées par les acteurs du OFF, que sont les compagnies et les théâtres, pour enrichir la programmation du festival de propositions connexes. 1094 compagnies françaises, donc une majorité effectivement de compagnies qui viennent du territoire national, et 66 étrangères en regard. Donc il y a un vrai, appel du territoire pour les compagnies nationales et un intérêt qui sans doute pourrait être encore développé au niveau de l'international. C'est un des axes qu'on vous exposera tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'il y a 1183 compagnies parmi ces compagnies qui participent au festival qui sont là pour la première fois à Avignon. Et donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les compagnies viennent de manière récurrente, etc. Eh bien, en 2022, ce n'est pas le cas puisque la très grande majorité rencontre le festival OFF et donc ce territoire pour la première fois. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, si c'est un bon signe ou un mauvais signe. En tous les cas, c'est une volonté, ça c'est certain, des artistes sur le territoire national de occuper l'espace avignonnais pour montrer leur travail et, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, faire en sorte que celui-ci soit découvert par les professionnels de la profession et donc soit programmé et diffusé sur les saisons à venir. 66 compagnies étrangères dont je parlais tout à l'heure, dont une qui nous vient d'Ukraine, et je voulais qu'on prenne un tout petit temps pour dire que bien évidemment au Festival OFF on est de tout cœur avec l'ensemble des Ukrainiens et de la communauté artistique notamment, puisque c'est avec laquelle on a des liens privilégiés, et que bien évidemment ce n'est pas parce que le festival est une fête qu'il oublie les réalités de ce monde et l'évocation de la crise en Ukraine et de la guerre accompagnera bien évidemment nos esprits, mais aussi un temps fort qui sera dédié à cela dans le cadre de la programmation du village du OFF. Et enfin, une part importante de spectacles jeunes publics qui montre aussi combien l'offre faite au Festival OFF est très diversifiée. Et ça va faire comme ça une transition pour passer la parole à Laurent, qui va vous expliciter donc cette diversité au travers de la typologie des spectacles.
Merci. Alors, juste une petite correction. Tu as fait un tout petit lapsus, mais c'est la première fois à Avignon, c'est les spectacles.
C'est les créations.
Et c'est plutôt caractéristique du festival, c'est le lieu de la création. C'est le lieu de la création et de la diffusion. Donc, 1183 créations sur 1500, c'est assez significatif.
C'est en hausse.
Ça montre une. L'importance du Festival OFF dans la création artistique française, je pense que là, il n'y a pas besoin de commenter ça. Autre chose qui est évidente, vous avez vu le camembert, à Avignon, oui, il y a du théâtre. Contrairement à parfois aussi quelques préjugés ou quelques communications, finalement, ce n'est pas l'humour ou le café-théâtre qu'on voit le plus à Avignon. Il y en a 253, il y a 912 textes catégorisés dans le théâtre. Lorsque disait Laurent Terzieff, le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela, Avignon... On voit bien que c'est ceci et cela aussi. Et c'est quand même le spectacle vivant, puisque vous voyez tout un tas de catégories. Alors, elles sont moins présentes que le théâtre, mais elles sont quand même présentes. Alors, en proportion, ça ne fait pas beaucoup, mais quand vous voyez qu'il y a 150 spectacles musicaux pendant le OFF, c'est un sacré endroit de diffusion des spectacles musicaux, mine de rien. Alors après, il y a des choses un peu plus modestes, mais la danse, par exemple, notamment la danse contemporaine, il y a quand même beaucoup de spectacles en proportion, enfin pas en proportion, mais en nombre. Et c'est un lieu aussi, on sait comment la diffusion de la danse contemporaine est difficile en France. Donc le Festival OFF est un lieu extrêmement important pour la création et la diffusion de ce genre de spectacle. Toute une diversité. L'idée est d'encourager évidemment le public et les professionnels à se nourrir de toute cette diversité. Et c'est tout notre objet aussi d'orienter pour un maximum de diversité, pour faciliter la diffusion de ces créations. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur ce camembert de manière non triviale. Après, il faudra aller plus avant pour voir un petit peu la typologie. Et je pense que pour là, ça suffit largement. Je pense qu'on peut passer aux étapes suivantes.
Sur les 138 lieux, combien de nouveaux lieux
Alors, 5. Alors c'est 5. Ouais, bon, ça va.
On me souffle 5.
Pour le préciser aussi, peut-être ce qui est intéressant à savoir, c'est les créations, donc les premières fois à Avignon, les 1183, ils sont bien spécifiés dans le programme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pastille qui précise que ces spectacles-là n'ont jamais été joués sur Avignon. Donc en termes de lisibilité, c'est très pratique.
Juste pour compléter le divertissement que vous a donné Laurent, est-ce qu'on sait combien de nouvelles compagnies sont à Avignon depuis la crise? Est-ce qu'il est possible de ça?
Je vois beaucoup de têtes qui hochent dans le sens horizontal.
Je pense que ça serait intéressant aussi, peut-être, au travers du festival.
C'est possible de montrer que c'est
possible.
C'est
possible
de montrer que c'est possible.
C'est important de le savoir.
Non, mais le Siret,
c'est une bonne question. On va pouvoir peut-être y répondre l'année prochaine.
Le
31 juillet, peut-être. Donc la suite étant de parler de l'affiche du festival. Alors, on ne vous a pas présenté l'équipe, mais on va vous la présenter en fait au fur et à mesure qu'ils vont intervenir, l'équipe évidemment des permanents. Le Festival of, enfin en tout cas AFC, Avignon Festival et Compagnie, ce n'est pas que le conseil d'administration, c'est surtout aussi l'équipe des permanents, qui sont représentés quasiment dans leur totalité ici. Il en manque un petit peu, qui sont au travail pour vous. Malheureusement pour eux. Et donc, au fur et à mesure de leurs interventions, on les présentera évidemment. Et donc maintenant, on va parler de l'affiche avec Chloé.
On a les lauréates qui ont réalisé l'affiche, qui sont en fond de salle. Donc, on avait prévu de les faire intervenir. Donc, pour revenir un petit peu sur la création de l'affiche de cette année, on a fait le choix, donc, comme l'indiquait Madame le maire en introduction, de construire un partenariat avec les salles, l'école supérieure d'art d'Avignon. On remercie d'ailleurs Morgane Labarre, le directeur, et Raphaël Monsigny, administrateur, qui sont présents aujourd'hui. L'objectif de travailler avec l'école des Beaux-Arts, c'était vraiment de créer du lien avec, sur le territoire, de mobiliser les talents locaux. Et donc l'idée, c'était de co-construire un appel à projet qui soit valorisant pour les étudiants. Donc on a lancé l'appel auprès de tous les étudiants et étudiantes de l'école. On a eu 16 participations, toutes très variées. C'était un petit peu aussi l'objectif de se laisser surprendre par les créations des étudiants et étudiantes. Et donc là, l'affiche qui a été choisie, c'est la création donc, de Daphné Bérard, Daphné Orcière et Joséphine Asselin qui sont aujourd'hui avec nous. L'idée, c'est bien de pérenniser ce partenariat et à l'avenir de construire un projet qui s'accompagne d'un accompagnement pédagogique pour permettre aussi aux étudiants pour que ce soit aussi une porte d'entrée pour le festival et qu'on ait vraiment une collaboration pérenne sur l'avenir. Les lauréates avaient prévu de parler brièvement du visuel. Je vais leur laisser la parole.
Bonjour à tous. Donc, moi, je vais parler un petit peu plus du côté technique, de comment on a fait cette affiche. Donc, on a très rapidement choisi de travailler en groupe. Ça nous paraissait assez naturel de faire ça ensemble et de croiser nos regards pour ne pas faire une affiche trop personnelle sur vraiment nos travaux. Donc, voilà. Et ensuite, au niveau de la création, donc on l'a vraiment fait un petit peu comme une scène de théâtre. On a vraiment voulu représenter le festival off. Donc en fait, on a fait une petite scénographie avec toutes ces petites pièces que vous voyez au premier plan. Donc c'est des petites pièces en mousse. Et ensuite, on a joué avec trois projecteurs de théâtre, de spectacle, et des gélates de couleurs pour créer un jeu d'ombre et de couleurs partout sur l'image.
Et notre idée, c'était d'avoir une imagerie qui rappelle une ville, une forme de maquette avec un jeu un peu sur les formats, les dimensions, et avec ces couleurs qui sont quelque part très dynamiques, assez tranchées, avoir quelque chose qui rappelle une forme d'énergie, voire de gaieté du festival. Et puis les ombres et lumières qui transforment ces pièces, qui donnaient un peu l'image du festival qui va transfigurer la ville sur ce mois de juillet.
Maintenant, nous allons attaquer la partie du village du Off. Pour ça, on a besoin de Jérémy.
Voilà, donc la grande info de cette année, comme vous le savez, c'est que le village du Off déménage. Donc on sera rue de la République en face de la nouvelle Scala, anciennement le Pandoma. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année par rapport au village? Notamment, c'est qu'on se permet de vous vendre des cartes jusqu'à 2h du matin, c'est-à-dire c'est le trésorier que je suis, et vraiment dans l'intention de pouvoir vous détrousser de tout votre argent pour acheter des cartes jusqu'à 2h du matin avec de la bière. Voilà, donc ça sera disponible tous les jours jusqu'à 2h du matin, les cartes publiques. Donc, trois espaces principalement, l'Agora quand vous entrez, le grand espace pour les rencontres, notamment là quand vous lieu les concerts du soir, du mardi au dimanche. Vous aurez les ateliers gratuits au niveau du visage du pro, les permanences, donc le bar du prof et le restaurant. Sachez que les compagnies ont une réduction au restaurant, c'est important. Donc c'est local, c'est bio, profitez-en, les compagnies, notamment, ils mangeront moins cher. Il y aura des conférences, les rencontres de la presse qui auront lieu le matin. Il y aura des rencontres des institutionnels qui auront lieu du début à la fin. Quand vous entrez, l'Agora, on est vraiment pour le public. C'est le grand espace où on lève notamment les concerts. Et si vous continuez au fond, à droite, dans la deuxième cour, c'est là que vous aurez le village des pros. Exclusivement pour les pros. On a aussi des espaces de coworking.
C'est même un droit-droit.
C'est un droit.
C'est un petit cours intermédiaire.
C'est un extrême droit quand vous rentrez. Et vous le trouverez facilement. Non, un petit mot par rapport à ça. On va vous dire qu'on était quand même au début assez anxieux parce que déménager, ça représente quand même beaucoup de choses. Jonathan Doucher, notre permanent qui fait partie de l'équipe, a travaillé d'arrache-pied. Et on ne va pas vous cacher qu'on est très enthousiaste d'occuper ce nouvel espace. Vraiment, je crois qu'il y a un super travail qui a été fait par l'équipe. Donc voilà, ça va très très bien se passer. On vous invite à venir et acheter plein de cartes. Plein de bonheur.
Et on remercie évidemment aussi les équipes de la ville d'Avignon qui ont accompagné notre équipe salariée pour pouvoir justement préparer ça au mieux, parce que ça s'est vraiment fait dans une concertation régulière et très efficace. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on vous donne quelques éléments sur la programmation du village du Hof avec quelques temps forts qu'on souhaite vraiment identifier. Tout d'abord dire que, on parlait tout à l'heure d'être inscrit dans l'histoire, le village du Hof, c'est pas quelque chose qu'on invente, hein, il était là évidemment avant qu'on soit élu à la coprésidence, et je tenais à saluer le travail de nos prédécesseurs qui ont réussi à en faire un lieu important et fort pour la vie lyonnaise pendant le festival, parce qu'il est vraiment identifié, il est très fréquenté. On souhaite néanmoins peut-être accentuer et renforcer sa dimension professionnelle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette importance du Hof en tant que lieu de rendez-vous pour la profession au niveau national, et qu'il nous semble important, en complément de toute l'offre qui est déjà faite, notamment par tous nos partenaires, que ce soit les organismes professionnels qui proposent des ateliers pour les compagnies, des temps d'information, etc., des temps d'apéro professionnels aussi qu'on met en place pour qu'il y ait des temps d'échange entre les programmateurs, etc., qui d'ailleurs vont se faire cette année, les apéros pro, avec le soutien et en partenariat avec plusieurs caves, donc afin de faire découvrir les vins du territoire à ces occasions. Il y a la volonté, on va commencer un petit peu cette année, mais on va vraiment essayer de structurer pour l'année prochaine, de proposer à notre conseil d'administration de travailler à une éditorialisation, je vais y arriver, de la programmation du festival, c'est-à-dire de faire en sorte que, plutôt que d'avoir des choses qui soient un petit peu ponctuelles et décimées tout au long du mois, il y a vraiment des temps forts avec une collaboration possible avec notamment le magazine La Scène, qui est le magazine de référence sur le spectacle vivant et qui organise notamment les biennales internationales du spectacle vivant à Nantes tous les deux ans, et qui donc sont très intéressés pour travailler avec nous à cette éditorialisation et vraiment cet ancrage au niveau de la profession et l'identification donc, du village du Hof. Il nous semble important aussi de donner peut-être plus de place à la parole des artistes qui sont programmés dans le festival pour une raison simple, c'est qu'on a la chance avec 1570 spectacles d'avoir une diversité de regards sur le monde d'aujourd'hui qui est portée par tous ces créateurs, jeunes et moins jeunes, qui forcément embrassent le monde tel qu'il est, ou tel qu'il va devenir, ou tel qu'il a été, en tout cas qui se penchent avec toute l'intelligence et la sensibilité qui peuvent être les leurs pour justement nous en renvoyer quelque chose à nous, spectateurs. Et finalement, leur parole est assez peu présente dans le village du Hof, et on s'est dit que c'était important de renforcer ça à l'avenir. Et pour ça, bon, cette année, voilà, on a été élu avec Laurent et le nouveau bureau le 12 avril. Hein. Donc forcément, le temps a été assez court pour imaginer des choses nouvelles. Néanmoins, il va y avoir deux temps importants qui vont être proposés. Principalement, donc, une journée sur la question des diversités, où en partenariat avec notamment les EGOF et d'autres partenaires qu'on est en train de finaliser la collaboration, on va aborder cette question-là parce qu'elle est très importante sur les scènes aujourd'hui, c'est-à-dire de comment faire en sorte que les minorités et la question de la parité se traduisent, puisque ce sont des vraies questions dans nos sociétés contemporaines. Mais la dernière campagne présidentielle a montré combien ces questions-là étaient au cœur de notre société et pouvaient aussi la cliver. Et bien comment la scène, le théâtre, l'espace du spectacle vivant s'empare de ces questions-là. Et donc il y aura trois temps, un qui sera consacré à la représentation donc, des problématiques liées au LGBTQI+A, le terme consacré. Un autre temps d'échange sera consacré à la représentativité des personnes dites racisées, puisque là aussi c'est le terme employé pour traduire cela, et donc d'interroger cette réalité dans le spectacle vivant. Et bien sûr la question de la parité qui est au cœur de notre travail au sein du festival, mais cela depuis longtemps. Voilà, donc ça ce sera une journée qui est prévue le 20 juillet, si je ne m'abuse. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième temps qui va être consacré à un des enjeux sur lesquels on souhaite travailler à l'avenir, mais je vais passer le micro à Laurent pour en parler. Donc voilà, je te le passe.
Merci. En fait, moi, je vais le passer à Chloé. Non, en fait, on aura un temps fort auquel on tient toutes et tous, c'est sur l'éco-responsabilité. Dans ce temps fort-là, il y aura plusieurs rencontres et moments de discussion au sein du village. Donc, je laisse Chloé d'abord parler du moment en général et je parlerai de la spécificité de la rencontre autour du label.
Merci. Je rajoute juste un petit point sur une date importante aussi, c'est le 16 juillet. On va travailler sur une journée dédiée à l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ça sera un point important de la programmation. Pour revenir sur la partie éco-responsabilité, on en parlera tout à l'heure aussi avec Jérémy sur la stratégie éco-responsable. Mais là, l'idée, c'était vraiment de construire une journée dédiée au village pour déjà valoriser toutes les actions qui sont menées en lien avec le comité de pilotage de la charte éco-festival, puisque nous sommes signataires aux côtés de la mairie d'Avignon, de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, du Festival d'Avignon et de la Fédération des commerçants et artisans. Nous sommes signataires, co-signataires d'une charte éco-festival qui nous amène à travailler ensemble sur un certain nombre de questions, dont la réduction des déchets, le plastique, les mobilités. Et donc l'idée, c'était de construire une journée au village pour réunir ces partenaires, parler ensemble de ce qui est fait, ce qui est possible, construire aussi des dispositifs de mutualisation pour mobiliser des leviers dans le spectacle vivant sur ces questions-là. Et donc, je ne dis pas de bêtises, la journée dédiée, c'est juste.
C'est le 22 juillet.
Ça sera le 22 juillet. Ouais.
Et le 17.
Et le 17, oui, la journée internationale, tout à fait. Voilà. Merci, Lucia.
Voilà. Alors, au sein de cette journée du 22 juillet, quelque part il y a une sous-partie qui nous tient à cœur, c'est celle sur laquelle on a beaucoup réfléchi avec Harold et les autres membres du bureau. C'est, vous savez que le festival OFF est basé, et son ADN est basé sur l'indépendance de ses acteurs. La question qu'on se pose, c'est pour tous ces challenges qui sont les challenges de l'éco-responsabilité, de l'économie sociale et solidaire écologique, est-ce que on peut, au sein du Festival OFF, allier indépendance et intelligence collective. Est-ce que c'est possible? Donc, déjà, c'est une question qui dépasse le Festival OFF, mais c'est une question qu'on se pose au sein du Festival OFF, puisque le Festival OFF est basé sur l'indépendance de ses acteurs, et c'est quelque chose auquel on tient. Maintenant, on tient aussi à une certaine intelligence collective, notamment dans la collaboration entre théâtre et compagnie. Pour en vue de l'économie sociale et solidaire et écologique, mais aussi en vue d'une meilleure mise en place de la professionnalisation de la filière, au sens où on aurait envie de renforcer la collaboration théâtre-compagnie et de mettre peut-être en place, en discutant entre nous, savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place un cahier des charges, à la fois pour les théâtres et à la fois pour les compagnies, et à la fois pour la collaboration théâtre-compagnie, pour pouvoir travailler toujours sur le même axe, la création artistique et la diffusion du spectacle vivant. Donc c'est une discussion que AFC encourage, AFC accompagne, AFC accompagne, encourage les acteurs du OFF à discuter. De façon assez horizontale, cette initiative a été débutée, cette mise en place d'une discussion entre théâtre et compagnie Et cette volonté de chercher des améliorations qualitatives et professionnalisantes ont été d'abord initiées à la fois de manière indépendante, un peu en quelque sorte en parallèle, par les états généraux du Festival of qui se sont formés au tout début du Covid, enfin pendant le confinement, donc enfin à l'occasion, on va dire, même si c'est pas très positif, de l'annulation du Festival 2020, et en parallèle aussi avec la Fédération des théâtres indépendants qui ont commencé à réfléchir sur ce sujet de manière horizontale. Il va y avoir une discussion le 22 juillet là-dessus avec des artistes, des théâtres, des compagnies, pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut trouver une intelligence collective et trouver des solutions concrètes à la création, à la diffusion, en passant par l'économie sociale, solidaire, écologique. Donc ça rentre tout à fait dans l'éco-responsabilité. Alors dans l'ordre, excusez-moi de faire un peu le monsieur loyal. Il y a des perspectives 2023 de la scène que tu as déjà abordé, évidemment. Donc maintenant on va passer au fonds de soutien, qui est un dispositif important aussi.
Je vais juste intervenir une fois sur le. Je me réjouis de vous entendre parler tout à l'heure du village du Haut et de sa mise en place, de son organisation, et j'espère qu'il sera beaucoup plus au service des théâtres, au service de la musique, ce qui a été le cas en 2019, puisque moi je trouve qu'il y avait quand même des dérives dans ce village, de la musique, des soirées DJ, de l'alcool, vraiment de compagnies qui refusaient d'y aller. Donc, je vous entends parler tous de cette reconsidération de ce village, et ça, je trouve ça vraiment super chouette, parce que si on regarde le Grand Vert, le nôtre en tout cas, il y a quand même 960 spectacles, théâtres, et donc ce village doit être totalement dédié, à mon avis, au moins à 80%, voire 90%, au théâtre. Donc, avec des scènes ouvertes, des groupes redonnés, enfin, vraiment un travail qui peut être mis en place et qui permettra vraiment aux compagnies de théâtre de pouvoir. Aller dans ce village serait refusé pour certaines de le faire. Voilà, merci.
Bien, je prends le relais. Alors du coup, je vais faire un petit additif à cette histoire du 22 juillet parce que en parlant des partenaires, il y a un nouveau partenaire discret du HOF qui va nous rejoindre pendant les années qui viennent, qui est la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vaucluse, qui a lancé une initiative, c'est de cibler 3 spectacles qui parlent du monde de travail, de l'économie, de la représentation, du salariat, etc. Ils ont choisi 3 spectacles et ils vont recevoir le 22 juillet au soir les 3 compagnies, faire une rencontre avec des entrepreneurs qui vont inciter à aller voir ces spectacles. Je pense que c'est une première pierre de collaboration, je pense qu'on poursuivra dans les années qui viennent, de manière plus ambitieuse, mais voilà, juste focuser sur cette coopération avec la CCI qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps, donc c'est un partenariat qui s'est fisté assez rapidement sur un enjeu pas super ambitieux, fallait qu'on puisse le faire vite, mais voilà, c'est une première pierre. La CCI s'intéresse enfin en fait, il y a un festival, donc un grand nombre d'entreprises qui viennent exercer et participer à la création de valeur à Avignon en juillet, donc c'est une très bonne chose. Voilà, juste faire ce petit additif. Et donc rebondir sur le fonds de soutien, j'ai surtout laissé la parole à Lisa. Ce fonds de soutien, il existe depuis quelques années. Son objectif, c'est de soutenir à l'endroit du salariat la professionnalisation des compagnies. Il y a un comité de sélection, il y a des dotations qui sont plurielles, hein, Lisa va les détailler, mais ce fonds de soutien se poursuit, on n'est pas à l'abri de le faire évoluer dans les années, notamment en réfléchissant sur ces objets, sur ce qu'on décide d'aider, mais en tout cas son existence a la vocation à être pérenne. Et Lisa, je vais te laisser le détailler, tu sais beaucoup plus de choses que moi là-dessus.
J'étais levé du moteur des marques.
Oui, donc le fonds de soutien est co-géré par l'ANC et ses partenaires. Donc co-géré et co-financé. Donc les partenaires institutionnels, type SCD, SACEM, CNN. Donc il s'agit d'un aide au salaire pour les artistes à hauteur de 50 euros par jour et par artiste. Donc depuis 2017, c'est un accompagné de création. Donc il y a plusieurs critères d'éligibilité. Mais la création est vraiment au cœur du dispositif. Donc avec un minimum de représentation de rodage et de représentation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc le financement, donc c'est cofinancé à la fois par AFC et par les partenaires. Donc l'AFC participe avec les cartes d'accréditation, donc qui sont à 35 euros par professionnel, donc entièrement versé vers le fonds, et aussi les frais de gestion ticket off de 1 euro par billet acheté, qui sont entièrement versés au fonds également. Voilà, donc cette année, on a reçu 200 dossiers. Donc l'année dernière, on en a accepté 66. Et on a donc On est en train de gérer ces dossiers-là. La commission est prévue fin juin. Donc, voilà.
Voilà. 266, c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de réfléchir au CA sur est-ce qu'il ne faudrait pas avancer une réflexion sur les critères, sur les spectacles visés pour qu'on ne fasse pas plus de déçus, de dossiers écartés que de dossiers recevables. Voilà. Voilà.
Pour mettre ça en adéquation avec des chiffres, parce qu'il faut être très concret sur ce fonds de professionnalisation, de son dossier éligible, donc c'est-à-dire que si on s'appuie uniquement sur les critères qui sont proposés aux compagnies, il y en a donc 205 qui sont éligibles, et le besoin pour les financer serait de 700 000 euros. Ça, ce serait le budget nécessaire. Il faut savoir que cette année en particulier, qui est une année de reprise où c'est compliqué de mobiliser notamment du mécénat qui intervient de manière importante jusqu'alors dans le financement du fonds de professionnalisation, on a des incertitudes quand même sur la venue du public, puisque, on va en parler tout à l'heure, mais la billetterie Tikeos, donc qui est le service de rétrocession de billetterie géré par AFSC, il y a 1 euro qui sont payés par les spectateurs qui viennent abonder ce fonds. On ne sait pas exactement quel va être le volume de spectateurs, est-ce qu'il va être au rendez-vous. On sait qu'actuellement, les publics dans les salles sont présents de manière très très hétérogène. Il y a des spectacles qui marchent, pas du tout. À Paris, la situation n'est pas brillante du tout au niveau de la fréquentation, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc on a vraiment des incertitudes, donc on est resté prudent, mais on va travailler cette année avec moins de 200 000 euros, ça c'est sûr et certain, pour un fonds qui en aurait besoin de 700 000 si on devait répondre de manière favorable à toutes les demandes qui sont pourtant éligibles. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de faire un tri drastique pour arriver à faire en sorte que un maximum d'artistes puissent être accompagnés et aidés. Et effectivement, comme tu le disais, la réflexion, elle se porte non pas évidemment sur la remise en cause du fait d'être dans une démarche de soutien aux artistes et à la création par le biais d'un fonds de professionnalisation, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut réinterroger les arbitrages à l'intérieur de ce fonds pour soutenir plus et mieux et être en capacité de convaincre des partenaires qui pour l'instant sont relativement réticents à venir, notamment au niveau des partenaires privés, sur ce fonds, de telle sorte aussi qu'on soit en adéquation avec les cahiers des charges de nos différents partenaires qui pour l'instant se contredisent un peu à l'intérieur du fonds, c'est-à-dire que les objectifs de la SACEM sont pas les mêmes évidemment que ceux de la SACD ou du Centre national de la musique. Bref, ça demande à être interrogé, c'est ce travail-là qu'on va mener avec le conseil d'administration et nos partenaires à la rentrée prochaine.
Super, alors maintenant on va passer au ticket off et à la carte d'abonnement avec Ophélia.
Donc le service Ticket Off, c'est une billetterie en ligne qui a été créée par AFC il y a quelques années maintenant et qui marche toujours un peu mieux chaque année. L'année dernière, par exemple, c'était à peu près 70 000 tickets vendus. Donc le prix du billet est entièrement reversé à la compagnie et on facture 1 euro de plus aux spectateurs, donc qui abonde le fonds de soutien, comme l'a dit Lisa tout à l'heure. Et au niveau de la carte d'abonnement public, donc c'est une carte qui est payante et nominative, qui coûte 16 euros en plein tarif. Après, il y a différents tarifs pour les jeunes, des tarifs avignonnés lors de la première semaine du festival, mais tout ça, ça sera marqué en détail dans le programme, qui sera en ligne incessamment sous peu, et dans le programme papier. Et donc avec cette carte, le spectateur a 30% de remise sur tous les spectacles du off. Et il accède également aux concerts, au Village du Off et à d'autres offres inédites. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus.
On peut parler juste d'un dispositif pour cette année sur la carte d'abonnement. On a un partenariat important depuis 10 ans cette année avec Avignon Tourisme, puisqu'on a une offre pour les porteurs de la carte d'abonnement qui sont des tarifs d'accès sur la visite du palais, de l'exposition et du pont. Et cette année, donc habituellement, les offres pour les porteurs de la carte sont actifs pour la durée du festival. Cette année, pour les 10 ans du Palais en Off, tous les porteurs de la carte d'abonnement pourront profiter de cette offre jusqu'au 30 novembre, donc jusqu'à la fin de l'exposition Selgado au Palais des Papes. Donc c'est un partenariat très important pour nous et on remercie activement Avignon Tourisme pour ça. Et on a, avec la carte d'abonnement, d'autres offres pour visiter notamment la collection Lambert, d'autres
Donc dire, le programme sera en ligne aujourd'hui, c'est ça hein?
Absolument.
La version numérique du programme du HOF sera en ligne aujourd'hui.
Et le programme papier arrive toujours un petit peu plus tard, on l'aura à partir du 1er juillet, mais la version PDF, ce sera en fin de semaine.
Super, alors maintenant on va passer à la partie off les murs, qui est une partie aussi qui nous tient à cœur. Je ne sais pas si Laurent, tu veux. On le fait à deux avec le contrôle de Julie, qui. C'est ça, un peu. Bien sûr. Alors, non, mais je vais juste très brièvement que je te passe la parole, parce que tu peux gêner pour le. C'est une initiative qui nous tient à cœur parce que, donc, qui évidemment a été mis en place par notre prédécesseur. C'est quelque chose de très important puisque ça prolonge. Vous savez que le Festival Off, il est concentré en temps et en espace, puisque c'est les remparts et autour. Et il y a évidemment fait partie maintenant du Festival Off. Le Grand Avignon via certaines villes du Grand Avignon du Off les Murs. C'est une initiative qui me tient à cœur parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est ce sont des villes qui font l'effort d'acheter les spectacles. Donc, donc les compagnies qui vont là-bas sont assurées de leur spectacle et en même temps, ce sont des compagnies qui, du coup, à l'année, font un travail pour sensibiliser les gens du territoire au spectacle vivant. Et tout notre enjeu aussi, on va en parler après d'ailleurs pour tout ce qui est les actions pendant l'année, c'est d'inclure le spectacle vivant, notamment via le Festival Off, dans le territoire. Et dans le territoire du Grand Avignon notamment. Et donc c'est pour ça que cette initiative nous tient à cœur et que nous, évidemment, nous remercions les villes qui sont partenaires du Off les Murs en ce moment. Et je passe la parole à Laurent qui connaît mieux les détails que moi.
Sous contrôle de Julie qui n'a que les bras libres.
Oui, effectivement, c'est un petit peu la teneur des échanges qu'on a eu récemment avec le Grand Avignon en la personne de Claude Morel qui est en charge du dossier culture. Et c'est vrai que le Grand Avignon n'est pas rétif à l'idée de soutenir AFSC et le HOF, mais la volonté qu'ils y mettent, c'est que le HOF rayonne au-delà des remparts et rayonne aussi sur les communes, l'ensemble des communes du Grand Avignon. Donc le dispositif HOF les Murs avait cette vocation-là et ce dispositif va être soutenu, maintenu. Ce dispositif, il a juste une petite limite, c'est qu'il faut sortir le spectacle des murs d'un spectacle d'un théâtre en exploitation pendant le HOF, il faut le faire rentrer. Donc ce dispositif continuera, mais il va avoir ses limites qui sont celles-ci. On a évoqué avec le Grand Avignon la possibilité de penser un dispositif complémentaire au HOF les Murs, basé un peu sur l'imitation de ce qui se passe au festival d'Aurillac. Ils appellent ça les préliminaires à Aurillac. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise. C'est vrai que de plus en plus de mi-mai au 20 juin, les théâtres d'Avignon accueillent en résidence des spectacles qui vont être créés pendant le HOF, qui vont jouer pendant le HOF, donc qui sont là pendant 5-6 semaines, et que ça peut être l'occasion d'aller projeter ces spectacles après une sortie de résidence dans les murs où ils ont travaillé. Le lendemain, sur une des villes du Grand Avignon, il y a un gisement là, il y a un endroit où on va pouvoir peut-être aller fédérer aussi les populations et les territoires autour de cette entrée en festival, comme aime le dire Madame le maire, et que je pense que ça a leur vocation vraiment à fédérer et à impliquer les habitants du Grand Avignon pour qu'ils portent un peu plus cette entrée en festival et en susciter l'envie de revenir voir plein d'autres spectacles aussi un peu en plus grand nombre ensuite pendant la durée du festival HOF. En termes de chiffres, c'est en progression ce dispositif HOF les Murs. Chloé, tu veux. Agnès, c'est toi qui veux.
Non, c'est Julie.
C'est toi, Julie. Tu veux que j'y aille. Bon, alors, je vais juste vous donner les chiffres. Alors. Donc le dispositif a eu. La vocation, si je ne suis pas devant les bonnes feuilles, ça va pas. Bon, hein. C'est toi qui as des petits lézards. C'est là. Non, c'est là, bon, c'est là. Donc, Châteauneuf du Pape, 7e année consécutive, 5 spectacles cette année. À Monteux, c'est une 5e édition avec 9 spectacles. Donc, grosse représentation à Monteux.
Ils sont là à Monteux. Ouais. Ils sont partis.
Courtezon, c'est leur 2e année et il y a 3 spectacles. Vedaine, 2e année, ils vont accueillir 2 spectacles. Et enfin, Nove va accueillir un spectacle le 29 juillet au Théâtre de Verdure. Voilà. Pour la première année. Donc c'est une ville convertie au dispositif HOF les Murs. Voilà.
Je pense en fait que ce serait intéressant du coup qu'on passe directement à l'accompagnement à l'année parce que je trouve qu'il y a une cohérence.
Juste avant, je voudrais.
Ah, d'accord.
pour ça.
Je pense que cette idée de préliminaire est intéressante parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées sur Avignon par les théâtres de manière un peu soit collective, soit individuelle pendant cette période effectivement du printemps. Il y a beaucoup de sorties de résidences, de lieux, tu en fais beaucoup, je sais, Laurent, la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon a lancé cette année le Printemps d'Yoff, qui est exactement dans cette ligne-là. Et l'idée, c'est évidemment pas de se substituer avec AFSC à ces initiatives individuelles ou collectives, mais bien de faire notre rôle en tant qu'AFSC d'accompagnement de justement de cette diversité en donnant une visibilité globale à l'offre qui est proposée et portée par les uns ou par les autres sur cette période-là, et du coup en ayant effectivement la possibilité de s'appuyer sur le réseau d'Off les Murs pour pouvoir justement offrir plus de représentations aux compagnies qui sont déjà programmées dans ces cadres-là. Je pense qu'il y a effectivement une mutualisation, une économie d'échelle qui peut être intéressante et valorisante pour tous, pour le territoire.
Et puis de financer, parce que là, pour le coup, dans le dispositif, il y aurait à nouveau des sessions, en tout cas sur la base des coups plateaux, ça ferait aussi déjà une économie de spectacle pour les compagnies qui sont là.
Quand on sait combien les sessions en amont du festival viennent nourrir la trésorerie et l'économie des compagnies qui viennent jouer à Avignon, c'est vrai que ce serait important.
Du coup, on va passer, je pense, à l'accompagnement à la mienne, parce que je pense que c'est en cohérence avec ce qu'on dit là. Je te relaisse la parole, en fait.
Avec Agnès. Oui, d'autant plus que c'est quand même un petit peu ma maraude depuis quelques années d'imaginer qu'Avignon devient une grande fabrique d'art vivant à l'année. Il y a un gisement qui dort sous les pieds d'Avignon, je le dis très souvent. Il y a une trentaine, une quarantaine de salles qui sont susceptibles de pouvoir accueillir des résidences toute l'année. Il va falloir se poser la question de comment un dispositif de financement public peut venir aider à structurer ce dispositif, parce que ce sera un vrai dispositif de filière qui va permettre à tous les métiers du spectacle de venir satelliser cette existence de résidence toute l'année. L'idée étant aussi que, évidemment, si ces financements rentrent dans les théâtres, c'est que ces financements n'enrichissent pas les théâtres, mais viennent rejaillir sur le off en diminuant peut-être le coût des créneaux, potentiellement, ou en diminuant le nombre de créneaux avec plus de temps pour des montages. Donc, en tout cas, ça peut inscrire ce dispositif de soutien de résidence à l'année dans un cercle vertueux qui rejaillira sur l'appréciation du off, sur l'adhésion des gens qui y participent, des fois parfois trop à contre-cœur parce que c'est un passage obligé. Et il faudrait qu'à terme, ça ne soit même plus la question de venir à contre-cœur, parce que Avignon serait une filière où toute l'année, l'art vivant est encouragé, accompagné, soutenu, aidé, et notamment et surtout à l'endroit des compagnies qui seraient, elles, aidées dans leurs déplacements, dans leur hébergement. Alors, AFSC a quelques dispositifs déjà depuis 2020, un dispositif notamment soutenu par la SACEM d'encouragement des résidences à l'année. En 2020, malgré l'absence du festival, il y a eu un premier dispositif financé par la SACEM au Théâtre de l'Arrache-Cœur. 5 résidences ont eu lieu cette année, en 2021, en 2020, et cette année, c'est 8 résidences qui ont été financées par ce dispositif SACEM. La SACEM met 55 000 euros pour soutenir des spectacles musicaux dédié à la jeunesse, au jeune public. Donc c'est une première pierre qui a le mérite d'exister, de montrer que dès lors que la machine est enclenchée, il y a du répondant, il y a des théâtres qui se mettent en face, il y a des compagnies qui sont preneuses de ce dispositif d'aide, et qu'en général, ça aboutit aussi sur une plus grande professionnalisation, une plus grande qualité de l'offre proposée ensuite au public avignonnais pendant le off.
Je vais ajouter une petite chose de moi.
Je t'en prie.
Et hop.
Parce qu'effectivement, l'enjeu de ce travail aidé, là encore, il n'est pas pour AFSC de se substituer au travail qui est fait par les acteurs du off, que sont les théâtres et les compagnies, qui le font déjà, mais bien d'accompagner. Et aussi, là, je me tourne vers Madame Le Maire, avec, je sais, cette ambition que vous avez pour avec Avignon 2025 et Terre de Culture, cette nécessité de faire en sorte que les publics du territoire, ceux qui notamment ont le plus de difficultés d'avoir accès non seulement à une offre culturelle, mais à une pratique culturelle, et je dirais même plus à la possibilité d'accéder aux lieux culturels, c'est-à-dire de franchir cette barrière symbolique qui souvent empêche beaucoup de gens de s'autoriser à penser que leur place est aussi dans une salle de spectacle. Eh bien, un dispositif comme celui-là, il pourrait avoir pour vocation, dans le cahier des charges dont tu parlais tout à l'heure, certes, d'agir sur le modèle économique des lieux et d'améliorer évidemment les conditions d'accueil des compagnies pendant le festival, puisque ce serait le soutien reçu par les théâtres, une contribution d'une contrepartie pour améliorer effectivement les conditions d'accueil pendant l'été, mais aussi pour les compagnies dans ce cahier des charges de prévoir que dans leur rôle et dans ce qui est leur mission d'être des artistes dans la cité, il y ait la possibilité, voire l'obligation, d'aller travailler avec les publics du territoire en lien avec évidemment tous les relais qu'il peut y avoir, les centres sociaux, les centres culturels, enfin tous les acteurs qui travaillent déjà avec ces publics-là. Et que si on est dans cette configuration-là, eh bien, il semble qu'on puisse arriver à quelque chose de gagnant-gagnant, si je puis dire, où le levier de la création sert ultérieurement les conditions de diffusion effectivement des compagnies, mais aussi le renouvellement des publics et son développement. Parce qu'on n'a pas parlé des publics, mais on a sauté la page, je vais juste en dire deux mots. Il faut savoir que le public du Festival of Avignon est un public vieillissant, qui est un public qui stagne depuis plusieurs années, et on sait que c'est un mauvais signe pour un événement culturel quand on a ces paramètres-là qui sont identifiés. C'est de plus, et ce n'est pas une critique, mais un public qui n'est pas paritaire, puisqu'il y a 68% de femmes qui sont... voilà, c'est pas non plus faire de l'agisme en disant ça, mais c'est plutôt un public qui a 50 ans en moyenne, et c'est un public qui est issu à 38% de la région sud, alors même qu'on sait qu'il y a beaucoup d'habitants d'Avignon qui quittent le festival pendant cette période-là. Ce qu'on peut comprendre, mais du coup, si on veut permettre cette rencontre entre les publics du territoire et les artistes d'ici ou d'ailleurs, et il faut le faire en dehors du temps du festival, qui ne permet pas ça, tout le monde est occupé à autre chose pendant ce moment-là, c'est le temps de la vitrine. Par contre, le temps de la fabrique et de la rencontre et du partage avec les artistes et le travail des compagnies et les processus de création surtout, eh bien, il peut se faire à l'intérieur de cette fabrique des arts vivants.
On a évoqué hier de faire une école des spectateurs, vraiment. Quoi. C'est-à-dire avec tout cet art vivant à l'année, il y a moyen d'aller... On en parlait hier avec le dispositif avec lequel on a échangé hier, Culture du cœur. Il y a moyen vraiment de faire une école du spectateur vers les quartiers d'Avignon et faire qu'ils deviennent certains des médiateurs dans leur quartier de la possibilité d'aller voir du spectacle et de se dire que c'est aussi pour eux. Quoi.
Et du coup, de devenir eux-mêmes des ambassadeurs d'autres publics pendant le temps du festival, avec du coup un intérêt très vif. On en a parlé toute cette semaine, on était en rendez-vous avec les partenaires institutionnels et professionnels de l'AFC. Et voilà, il y a un vrai intérêt, en tout cas, pour cette problématique et cet enjeu pour les années à venir.
Et donc, de façon très naturelle, le projet Constellation s'inscrit là-dedans.
Bonjour. Alors, Constellation, c'est un projet... formidable. C'est un magnifique projet sur lequel on travaille depuis 2019, qui n'a pas pu voir le jour, évidemment, en 2020, qui s'est arrêté, comme beaucoup de choses. Ce projet, avant tout, c'est mettre en lumière le point de départ, le socle de toute création, c'est-à-dire l'écriture, les auteurs. Il y a de très nombreux auteurs qui écrivent et qui ne sont jamais joués. Ça, c'est un drame. Donc, il y a de nombreuses pièces qui sont complètement orphelines pendant de longues années. Donc c'est une association qui se fait, ce projet se fait en association complète avec AFC, les EAT, écrivaines et écrivains du théâtre, peut-être que vous connaissez cette association qui défend depuis de longues années l'écriture contemporaine, et qui est aidée dans le financement par la SACD, ça va de soi évidemment. Et donc l'idée du projet, c'est que, en repartant à la base, les EAT, depuis des années, ont deux comités de lecture, un comité jeune public et un comité tout public. Chaque année, les auteurs transmettent des textes de façon anonyme et vont ressortir de ces centaines de textes une dizaine de textes lauréats qui vont avoir un peu de lumière, peut-être droit à l'édition ou en tout cas des lectures. Mais la plupart de ces textes ne sont jamais montés. Donc l'idée de Constellation, c'est en premier lieu de créer un duo, qui va être un duo auteur-théâtre. Les textes sont mis à disposition dans une bibliothèque virtuelle, mais on pourrait imaginer une belle bibliothèque aussi, pourquoi pas, pour les théâtres. Donc cette bibliothèque, elle s'est ouverte en 2019. De nombreux théâtres se sont positionnés, ont eu le droit de lire, je pense qu'il devait y avoir une vingtaine de textes, à peu près. Et de nombreux théâtres se sont positionnés, se sont dit, tiens, ça, ce texte m'intéresse, cet auteur m'intéresse, j'ai envie que la création ait lieu chez moi. Le théâtre propose des conditions d'accueil de la future compagnie assez exceptionnelle. Donc la plupart des théâtres vont proposer des contrats de co-réalisation, des locations vraiment à prix moindre, c'est-à-dire vraiment tout faire pour que ces textes voient le jour. Ça, c'est la première chose de Constellation, il y a trois petites étoiles, donc il y a ces deux étoiles qui se rencontrent, auteur et théâtre, et puis à va arriver derrière, là on arrive à ce stade-là, tout nouveau, c'est la compagnie, c'est-à-dire qu'on prend la création un petit peu à l'envers.
J'avais peur.
Alors, bien sûr, mais non. La compagnie Donc les compagnies, il y a eu un appel d'offres, là, je ne sais pas si on appelle ça un appel d'offres, enfin, un appel à candidature, mais c'est une offre, c'est une sorte de cadeau, un peu. Voilà, qui a eu lieu en avril-mai. Alors cette année, toutes les choses se font un petit peu plus tard que dans le calendrier idéal, donc l'année prochaine, on va anticiper plus. Les compagnies ont accès au texte, surtout elles ont accès au duo. Donc elles vont tout de suite se positionner sur un duo et sur un texte. Elles contactent elles-mêmes les auteurs, elles se mettent en contact avec les auteurs, elles lisent les textes. Et l'idée, c'est ensuite d'accompagner tout le long depuis cette naissance-là jusqu'à la création. Donc cette année, la première chose, ça se passe en plusieurs étapes. Donc là, cette année, on a quatre trios, théâtre, compagnie, auteur, qui vont se rencontrer, qui commencent à travailler et qui vont présenter des maquettes le 12 juillet au conservatoire. Donc vous êtes tous, évidemment, cordialement et avec plaisir, invités à découvrir ces maquettes qui seront publiques, 15-20 minutes de maquettes. Et ensuite, en 23 ou 24, ces spectacles seront créés dans les théâtres, dans les 10 théâtres. Voilà. Donc cette année, on a 3 jeunes publics et un tout public. Donc c'est un projet très ambitieux. Cette année, on est un petit peu modeste. Il n'y a que 4 maquettes, mais ça va être des très belles maquettes, je pense. Il y a des très très beaux projets. Et puis, on espère que voilà, ce projet va se pérenniser. L'idée, c'est vraiment de remettre l'auteur au centre. Il est souvent oublié. Voilà, tu veux compléter J'ai tout dit. J'ai pas cité les auteurs, je voulais citer.
Non, peut-être.
On a un auteur à Vignonnet, c'est pour ça.
Dans tous les cas, oui, mais les auteurs, si tu veux, je les ai là. Donc il y a Sabine Révillé, Jacques Dupont, Stéphane Pisani et Catherine Dalle. Donc les lieux, c'est le Théâtre des Barriques, l'Espace Alia, l'Île 80, le Transversal. Et les compagnies, tant qu'on y est, les Lucioles, l'Imprévu, la Divine Usine et les Traversées. Que je voulais rajouter aussi pour le 12 juillet. Donc, 12 juillet, il y a cette journée dédiée à la constellation au conservatoire. Et au village du Hof, il y aura la journée dédiée au dispositif SACEM que Laurent vous présentait. Donc, c'est l'après-midi, c'est à partir de 16h. Il y aura déjà un spectacle d'une des compagnies qui avait été soutenue par le dispositif la première année, enfin la deuxième année, en 2021. Puis après une table ronde sur la thématique, donc on va revenir sur le dispositif et ouvrir sur la diffusion du jeune public musical notamment. Donc vous êtes aussi invités à venir bien sûr y assister. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ça.
Le 10 juillet aussi on fait une rencontre.
Et le 10 juillet aussi au village du Hof, on va aussi parler de constellation avec les EAT et les auteurs.
Et les auteurs.
Mmh. Donc 10, 12 à noter.
Merci. Je passe la parole à Rol. Pour les prospectives, je te laisse commencer, puis je compléterai.
Oui, donc on va arriver à la fin. Prospective, ça veut dire qu'on se projette un petit peu dans l'avenir. C'est effectivement avec cette ambition-là que Laurent Domingos et moi-même avons décidé de bâtir notre projet de coprésidence, qui est non pas inédit, puisque voilà, ça a été validé en novembre 2021, pardon, cette possibilité pour FSC d'avoir des coprésidents. On n'a pas été à l'initiative de cette possibilité, mais on a, avec d'autres, travaillé à cette réflexion-là sur la nécessité d'une gouvernance partagée. Parce que l'intelligence collective dont parlait Laurent tout à l'heure, elle se situe d'abord à notre endroit, au sein de l'AFSC, et au-delà de l'AFSC en tant que tel, dans cette nécessaire coopération entre théâtre et compagnie, entre compagnie et théâtre, et dans le fait d'arrêter d'imaginer qu'il y a des clivages entre les uns et les autres, mais que, bien au contraire, ce sont les acteurs d'une filière professionnelle où chacun a son rôle à jouer, où chacun a besoin les uns des autres, de l'auteur dont parlait Véronique tout à l'heure, jusqu'au spectateur. On est bien dans une chaîne professionnelle où chacun a besoin du travail de l'autre pour pouvoir exister. Et c'est vraiment dans cette volonté d'apaiser ces clivages qui ont souvent été exacerbés à l'Union qu'on a pensé notre coprésidence. Le premier travail au niveau de ces prospectives, il est de faire évoluer la gouvernance d'AFSC de manière beaucoup plus collégiale, avec la volonté d'être inclusif avec tous les acteurs qui participent au HOF. On parlait tout à l'heure du village. Moi, je me ravis de voir que cette année, les EGOF sont autour de la table, que la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon le sera aussi, et que donc il y aura cette diversité aux côtés des acteurs traditionnels, de nouveaux acteurs qui sont apparus à la faveur, si je puis dire, de la crise sanitaire. faire. Donc cette volonté d'être inclusif, elle se traduit aussi dans une volonté d'associer les acteurs du HOF aux décisions importantes qui interviennent sur, bien évidemment, l'évolution de notre filière et de nos métiers, et de les consulter chaque fois que ce sera nécessaire et qu'on estimera utile d'avoir leur avis avant de prendre une décision. Vraiment, la manière dont on envisage cette gouvernance, c'est de considérer que AFSC n'existe que parce qu'il y a le travail en amont qui est fait par les compagnies et les théâtres qui, dans une entente contractuelle, certes, mais en général bienveillante, puisque ça dure depuis quelques dizaines d'années quand même, cette coopération, eh bien, que c'est ce travail-là de programmation qui fait la spécificité du Festival HOF et qui fait que AFSC reçoit ce travail-là en confiance, mandaté par les acteurs du HOF, pour pouvoir les accompagner au mieux et faire en sorte que la création et la diffusion des spectacles, du spectacle vivant soient le plus valorisé et la plus représentative de la diversité, de la singularité des paroles artistiques qui, fort heureusement, sont très vivantes dans notre pays. Voilà, donc ça, c'est sur la partie gouvernance, et c'est un vrai travail de fond qui s'accompagne d'une volonté de repenser et de refondre aussi les statuts de l'association, son réglementaire, enfin, voilà, de travailler vraiment en profondeur sur ces questions-là, en concertation avec les acteurs. Ensuite, le deuxième axe, il s'inscrit dans cette dynamique de filière dont on parlait tout à l'heure, et évidemment, le travail d'année qu'on a évoqué, il participe, le travail de cette réflexion sur une montée en qualitative du festival pour l'ensemble de ses acteurs, mais aussi pour le public, c'est-à-dire du côté des compagnies, du côté des théâtres, au travers de cette réflexion sur un label HOF dont les contours et le cahier des charges sont bien évidemment encore à définir et ne doivent en aucun cas, et j'insiste là-dessus parce qu'on pourrait penser avec un temps de proposition comme ça, que l'idée c'est d'imposer des choses. Non, la logique dans laquelle on travaille, elle est vraiment de proposer et que les acteurs puissent disposer. Et cette différence, elle est vraiment importante à voir parce qu'on n'est pas dans une verticalité à se dire, voilà, le Festival HOF c'est nous et voilà ce qu'on sait qui doit être bien pour le festival et on le met en place de manière régalienne. C'est pas un fonctionnement qui est possible avec l'indépendance dont on parlait tout à l'heure, et encore moins avec l'intelligence collective dont Laurent effectivement se faisait le chantre tout à l'heure. Et donc proposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner les moyens à ceux qui le souhaitent de s'emparer d'autres modèles, d'autres façons de travailler, encore une fois s'ils le souhaitent. S'il y en a qui souhaitent rester dans les fonctionnements qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est leur droit le plus strict, et c'est absolument pas à nous, à FSC, d'aller nous positionner en juge et en distributeur de bons points ou de valeurs par rapport à cela. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment cette diversité dont chacun puisse disposer s'il le souhaite. Aujourd'hui, malheureusement, c'est, même si on en a envie, c'est difficile de disposer parce que l'offre est réduite et les moyens surtout le sont. Et bien, c'est dans cette logique de recherche professionnalisante de moyens que nous engageons notre travail. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais laisser mon co-président conclure cette conférence de presse et répondre aux questions.
Ce sera la mère qui conclura, mais j'ai juste rajouté un mot.
Notre partie, je vais maintenant sur notre partie à nous.
Oui, alors désolé de faire un. Oui, effectivement, la transition éco-responsable, oui. On en a parlé un petit peu, mais je crois qu'on n'a pas parlé assez. Donc, on va faire on va insérer Jérémy, si je puis m'exprimer comme ça. Et après, je préciserai cette sorte de label. Puis Chloé, hein, forcément.
Chloé, tu veux parler de la partie environnementale, peut-être ? Tu me laisses tout faire, d'accord, merci. Donc, ok. Alors. Donc on va essayer de parler de social et d'environnemental du plus grand événement théâtral du monde en 2056. Donc plusieurs choses. Par rapport à la démarche environnementale, quelques chiffres. Les éco-packs que vous connaissez cette année, c'est 460. 460 spectacles ont choisi de passer par AFSC pour avoir leur affiche. C'est du papier qui est recyclé, c'est du papier qu'on récupère, qu'on essaie de récupérer. 50% de plus de papier recyclé récupéré par le Grand Avignon pour le Festival d'Avignon. Donc on ne prend pas ça à la légère. Plus de bouteilles en plastique vendues pendant. Qu'est-ce que j'ai dit une bêtise ?
Pas du tout.
T'as fait des dizaines d'années de bêtises. Bon. Plus de bouteilles en plastique vendues au village du Bof. Peut-être même qu'un jour ce sera la même chose dans tous les théâtres, n'est-ce pas ? On précise également que tous les programmes sont récupérés par les triporteurs en fin de festival. Donc, par rapport à la question du papier, il faut vraiment qu'on prenne tout ça sérieusement. Il y a de ça 20 ans, il y avait 500 spectacles, on n'avait pas l'impact qu'on a, on n'avait pas les consciences écologiques qu'on a. Donc aujourd'hui, on est à 1500, on a une grande responsabilité à nous la prendre. Cela dit, dans notre ADN, comme disait Laurent, il y a une indépendance des théâtres et des compagnies. On n'a pas de mesure coercitive à mettre en place. Tout ce qu'on peut faire, c'est de la pédagogie et de la communication, c'est ce qu'on essaie de faire. Une petite parenthèse par rapport à la question du social. Comme le disait Laurent, je cite beaucoup aujourd'hui, le Festival d'Avignon, c'est un passage obligé pour beaucoup de compagnies, beaucoup de spectacles qui cherchent leur public, leur diffusion. C'est 6000 artistes et techniciens chaque année, 1600 spectacles. Le constat largement répondu, c'est que les compagnies sont souvent au bout de la chaîne alimentaire. Pourtant, on parle de 50 à 70 millions de retombées économiques pour Avignon et le territoire. Non, 50 millions.
48 millions.
Oui, mais avec la TVA, ça fait 48 millions. Et bientôt beaucoup plus. Donc, en fait, les compagnies qui viennent au Festival d'Avignon, prenant beaucoup de risques, faisant vivre avec les théâtres, mais faisant vivre le festival, prenant tous les risques à leur charge, quand elles arrivent et qu'on leur propose des loyers à 5000 balles, quand les prix des restaurants augmentent, quand on les refuse leurs affiches dans le commerce, il faut comprendre le sentiment que peuvent avoir les compagnies. Or, elles sont responsables de ces retombées économiques. Donc, nous, on pense qu'on peut réussir à créer des nouveaux types de relations entre les compagnies et les habitants, les commerçants. Ça passe par les associations de quartier, ça passe par les associations de commerçants. Quelques idées de problèmes et des pistes qu'on a, quelques idées de constats. Le logement des comédiens, c'est très compliqué de se loger. Cette année, on a pu voir que plusieurs dizaines de comédiens ont pu être logés en chambre chez l'habitant. On n'a plus de place, on a peu de gens qui louent leur maison, on a plein de gens qui ont des chambres disponibles chez eux, parce que le grand est parti faire ses études, parce qu'on a une chambre en plus, etc. On n'a pas forcément envie de faire du Airbnb, mais on est prêt pour 500 euros à loger un régisseur, un comédien. Ça marche très bien, c'est plusieurs dizaines, c'est anecdotique, mais c'est qu'un début, plusieurs dizaines d'acteurs qui ont pu être logés de cette façon-là. La restauration, cette année, on a une dizaine de restaurants qui acceptent de jouer le jeu d'une restauration à 8 euros pour toutes les compagnies, tous les régisseurs sur présentation de leur carte. C'est la moitié de ce que représente un ticket moyen pour manger à Avignon. Donc il y a des choses qui se mettent en place et qui commencent à avoir une conscience qui est en place. La mobilité, on a une formidable association à Avignon qui s'appelle Roulons à vélo, qui favorise la mobilité douce. Travaillons avec eux pour fournir, aider les comédiens à avoir des vélos, se loger un peu plus loin des remparts, avoir des maisons plus grandes, moins chères. Il y a vachement de réflexion à avoir par rapport à ça, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est super important. Il y a 180 spectacles jeunes publics au Festival d'Avignon. Si vous y avez été, vous verrez que souvent, il y a plus d'adultes professionnels que de jeunes publics qui assistent. Et à côté de ça, on a à Avignon, à Saint-Chamond, à la Reine-Jeanne, à Montclar, à Saint-Ruf, à Croix-des-Oiseaux, des jeunes qui ne sont pas forcément tous au centre aéré et qui sont chez eux, devant leur tablette, et ces salles qui sont vides. Ces enfants-là aussi, on les trouve, ils sont tous scolarisés. Il y a des choses à faire, il ne s'agit pas juste de distribuer des invitations, mais de monter des programmes à l'année pour que ces jeunes-là et leurs parents se sentent concernés par le Festival d'Avignon et qu'il n'y ait plus ce cloisonnement. Donc il y a vachement de réflexion par rapport à la dimension sociale et environnementale, et on essaie d'y travailler super, super fort.
Justement, tu as passé le micro, je voulais compléter sur ce que tu viens de dire et rebondir sur une des initiatives qu'on met en place, et chez eux, la présence d'Hélène Mando, donc de Culture du Cœur, qui est avec nous, qui fait partie du conseil d'administration de Culture du Cœur. Comme vous savez, Culture du Cœur est un partenaire depuis de nombreuses années du festival, et donc il y a une billetterie solidaire qui existe, hein, c'est-à-dire que les compagnies, il y en a plus de 900 qui se sont portés volontaires cette année pour donner des places gratuites au public en lien avec Culture du Cœur, donc plutôt des publics évidemment défavorisé, et on a pensé que, bien sûr, donner des places gratuites, c'est important, ça permet de lever la barrière du financement des places, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, comme je disais tout à l'heure, aller dans une salle de spectacle, ça va pas de soi, ça demande une démarche d'accompagnement quand on n'y a pas été, on n'a pas eu le privilège d'avoir une famille qui vous permet d'avoir cet accès-là, ces habitudes de pratique de spectateur. Et pour ça, il nous a semblé important de pouvoir mettre en place un dispositif de médiation simple, mais qui est simplement de pouvoir mieux accompagner les publics au travers donc, d'une offre spécifique à l'intérieur de l'ensemble des spectacles qui seront proposés. Et pour que les compagnies soient disponibles, motivées, mais surtout disponibles, pour pouvoir s'engager dans ce temps de médiation qui va forcément leur prendre du temps sur la promotion de leur spectacle, eh bien, on est en train de mobiliser un certain nombre de mécènes du territoire, et je salue ceux qui voudront bien s'engager là-dedans, et j'espère que la presse pourra s'en faire l'écho pour qu'il y en ait d'autres encore qui viennent rejoindre ceux qui sont là, pour financer en fait ces places de spectacle pour les compagnies. C'est-à-dire qu'au lieu de distribuer des invitations, eh bien, elles vont mettre à disposition des places qui sont gratuites pour les publics, mais dont la valeur sera financée par des fonds privés. Et c'est une démarche qui, du coup, permettra aux compagnies de se dire que bah, le temps qu'elles passent à la médiation, c'est aussi du temps où elles sont vraiment à leur place, peut-être plus qu'à tracter dans les rues, pour sensibiliser les publics aux œuvres qu'ils vont donc les découvrir à cette occasion, et d'engager vraiment cet nécessaire dialogue entre des créateurs, une œuvre, une équipe artistique et des publics pour qui justement cette offre est souvent inaccessible. Donc ça, cette réglementation, c'est une nouveauté qu'on va faire cette année, qui va concerner une partie évidemment de l'offre de l'ensemble des places Culture du Cœur, mais qui plus il y aura d'argent pour le financer, plus à terme il y aura évidemment places payées pour les compagnies, ce qui sera aussi une manière de les aider à leur professionnalisation, parce qu'on parle de fonds de professionnalisation, de soutien aux compagnies, mais si d'abord si les compagnies pouvaient faire le plein déjà en termes de spectateurs, on sait que la moyenne de fréquentation est à l'entour de 50% au niveau des jauges, etc. Il y a encore une marge de progression de en place payante qui sont la juste rémunération pour les compagnies de leur travail. Voilà, je vais juste faire cette petite incise et Chloé, je te passe.
Je complète juste sur un point sur la transition éco-responsable, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aborde, mais on n'aura pas tous le temps de les traiter aujourd'hui, c'est la question de l'affichage. L'affichage qui est un point important pour nous dans notre travail sur la stratégie RSE. Cette année encore, donc l'affichage sera autorisé par l'arrêté municipal sur lequel nous travaillons, en tout cas que la mairie nous permet de travailler dessus au sein du comité de pilotage de la charte. Comme chaque année, il y a un certain nombre de places, d'endroits qui sont interdits pour l'affichage. C'est important de travailler là-dessus. Dans les évolutions de l'arrêté, on a l'ajout de la limitation des quantités de support pour les compagnies, pour les affiches et les tracts, tels qu'ils sont prévus dans le dispositif qui s'appelle les éco-packs que nous on propose aux compagnies, qu'on propose un dispositif de mutualisation éco-responsable des impressions des affiches et des tracts. Donc l'arrêté municipal prend en compte ces limitations qui sont prévues dans les éco-packs. C'est important de signifier ça aussi parce que je pense que beaucoup sont au courant. On travaille sur un projet de substitution à l'affichage qui a été prévu et inscrit dans notre stratégie RSE telle qu'on l'avait présentée en 2020, qui aujourd'hui a besoin d'être repensé puisque on vient de traverser les deux années de crise, quelque chose sur lequel on n'a pas pu avancer. Mais l'idée, c'est bien d'arriver en 2023 avec une proposition concrète de substitution à l'affichage. L'idée étant de comment on vient régler toutes les problématiques actuelles de l'affichage, à savoir les 40 tonnes de papier que ça génère, les inégalités économiques que ça crée entre les compagnies, les prises de danger pour les compagnies qui affichent, puisque vous les voyez, hein, affichés, on sait comment ça se passe l'affichage. Ça, c'est des choses sur lesquelles on veut agir. Mais l'idée, ce n'est pas de détruire le folklore. On veut bien trouver un dispositif qui vient à la fois valoriser la ville, le patrimoine, et aussi donner des espaces de visibilité aux compagnies. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va continuer de travailler en interne et au sein du comité de pilotage de la charte éco-festival, et pour lequel on fera une proposition de projet pour 2023.
Merci Chloé, c'est très important pour nous. Oui.
Moi, je fais partie de celles qui revendiquent qu'on cherche un équilibre entre le folklore, entre guillemets, comme il vient d'être dit, et puis l'éco-responsabilité, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Mais voilà, pour moi, l'affichage, ça fait aussi partie du festival et de la ville qui rentre en festival à partir du moment où ça reste dans la mesure du raisonnable. Et je pense que toutes les démarches qui sont initiées, notamment l'utilisation de papier recyclé et qui ensuite sera recyclable puisqu'il est systématiquement là aussi maintenant ramassé par le Grand Avignon, quoi, et que tout au long aussi du festival il y a ces poubelles qui permettent, y compris dans les rues, ce qui n'est pas, alors qu'on n'y a pas forcément accès en dehors du moment du festival, on peut trier, y compris du coup permettre à ce que le papier soit recyclé. Donc voilà, moi je suis plutôt pour qu'on maintiennent quand même un affichage, mais que ça soit, je le redis, de manière mesurée. Et ça, je sais que le festival aussi, l'équipe du Festival Off est dans cette perspective-là, et donc je m'associe pleinement.
Mais je suis sûr qu'on va trouver avec vous le nouveau folklore à Lyonnais, qui fera date. Bon, je vais vous donner bientôt la parole, on va conclure. Je finis juste ce que disait Harold sur les prospectives. Comme vous avez dû le comprendre maintenant, on essaie de doser intelligemment au niveau associatif et au niveau de tous les acteurs du HOF entre la verticalité et l'horizontalité. C'est toujours un problème en politique ou en associatif de voir comment est-ce qu'on dose le processus vertical de prise de décision et le processus horizontal. C'est jamais facile, on va tâtonner, je pense. On va essayer de faire au mieux. Ce qui est clair, c'est qu'on a, y a un grand besoin qui dépasse même le secteur du spectacle, qui dépasse évidemment le HOF, mais qui dépasse le secteur du spectacle vivant, qui est ce besoin d'horizontalité, de démocratie participative, comme on peut dire de manière un peu vulgaire, mais qui est un peu une volonté de tous les acteurs de prendre part au débat, hein, qui est quelque chose de très actuel. On en est conscient et c'est pour ça qu'à FSC, pour nous, en tout cas, avec Harold, la démarche qu'on a, c'est d'essayer d'accompagner les discussions et d'encourager les acteurs à se parler. Donc, par exemple, dans cette histoire de label, ce qu'on veut, c'est encourager les théâtres et les compagnies à définir, à formaliser les enjeux communs et à se réunir aussi et à se battre pour les enjeux communs. Les enjeux communs, on les connaît. Le spectacle vivant en France, il y a des enjeux communs entre artistes, théâtres, compagnies et sociétés civiles. C'est très important de se battre ensemble pour que le spectacle vivant reste cet endroit que nous, on pense essentiel à la fois la culture, mais la culture étant essentielle à la bonne marche et la bonne évolution de la société. Donc ce sont, par la création et la diffusion, en se battant pour ça, on a des enjeux communs. Et ce label, c'est essayer de voir comment ensemble on peut collaborer autour d'éléments qualitatifs mais objectifs, en dehors de tout jugement sur la partie artistique, puisqu'on est évidemment pour la diversité, comment est-ce qu'on peut se regrouper et aussi offrir, via ce cahier des charges, une confiance à la fois au pouvoir public, mais aussi aux sociétés civiles et au public et aux professionnels. Dans l'intérêt, évidemment, il faut qu'il y ait un intérêt et donc qu'il soit incitatif pour les théâtres et les compagnies. Donc ça va être un chantier qu'on encourage, mais comme disait Harold, ce chantier ne peut être pris que par ceux qui font le festival, les acteurs du HOF, c'est-à-dire les artistes, les théâtres, les compagnies, les techniciens, etc. Voilà, je vous donne la parole si on a terminé. Madame Lallaire, pour vous concluer.
Je ne sais pas s'il y a une conclusion possible à part de se donner rendez-vous du coup pour l'ouverture de ce festival le 7 juillet. Moi, peut-être à l'issue de cette conférence, de souligner deux choses. Je pense qu'on voit dans la manière dont cette conférence a été conduite et surtout sur, y compris les perspectives qui sont aujourd'hui brossées, qu'il y a une volonté d'une part, de la part d'AFC, de porter un événement qui se voudrait peut-être plus exemplaire et plus responsable par rapport aux enjeux environnementaux, mais aussi par rapport aux enjeux, comme il vient d'être dit, de la précarité en fait, de l'artiste et de comment on agit pour, puisqu'on a tous dit que la culture était indispensable à nos vies, et on a bien fait de le dire il y a quelques mois en arrière quand on en était privé. Je pense qu'il faut continuer de revendiquer le fait que la culture, elle est indispensable à nos vies. Et aujourd'hui, qu'elle peut reprendre pied dans nos vies, c'est comment on l'accompagne pour que celles et ceux qui portent la culture sortent de la précarité et puissent eux aussi continuer du coup à se concentrer sur l'essentiel qui est d'être créatif et de nous proposer des moments d'évasion et surtout des moments de partage, comme la culture sait nous les proposer. Et puis l'autre dimension qui me semble particulièrement intéressante pour Avignon et pour les Avignonnaises et les Avignonnais, c'est cette volonté aussi d'ancrer cet événement dans son territoire, évidemment au mois de juillet, mais pas que, et de renforcer du coup les liens tout au long de l'année, et les liens, voilà, je dirais, à la fois de fidélité, mais de complicité entre le festival HOF et la ville, et les Avignonnais et les Avignonnaises, et ça me semble aussi quelque chose d'essentiel, sur lequel on peut évidemment beaucoup partager et beaucoup continuer à cheminer, puisque avec Laurent, il le sait, enfin parlant sur les résidences à l'année, certains des théâtres ont pu conventionner récemment, et notamment sur cette dimension justement d'accueil de résidents. Donc c'est vrai qu'on se rejoint beaucoup sur les publics aussi, je le disais dans mon propos introductif. Avoir le festival dans une ville comme la nôtre, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai atout. Voilà, et c'est une vraie vraie belle opportunité, sauf qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'animés et d'animés qui passent à côté de cette opportunité. Et donc, comment on fait, effectivement, pour amener le maximum de personnes et le maximum de nos habitants et ben, à être convaincus de ça et à se dire, bah ouais, c'est waouh, quoi, d'avoir le festival dans sa ville, quoi. Et ça, je pense que là aussi, la ville sera à vos côtés, quoi, parce qu'on sait qu'on a une belle marge de progression encore sur, mais c'est ça qui est motivant. Merci en tout cas pour cette très belle présentation. Merci.